Le quart d'heure corrézien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram FM, RGB et RCF Limousin.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 50e numéro du quart d'heure corrézien. Je m'appelle Olivier Serrac et ensemble, durant les 15 prochaines minutes, je vous invite à vous informer sur trois événements qui ont fait l'actualité en Corrèze cette semaine. Ainsi, nous ferons le point sur les éboulements de talus dans le département, des talus qui finissent très souvent leur course sur les chaussées des routes départementales. Un phénomène qui inquiète au département de la Corrèze, institution en charge justement de l'entretien de ces routes. Ce vendredi, c'est la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies. L'an dernier, les violences à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et autres ont augmenté de 13%. Nous entendrons la présidente d'un collectif de défense LGBT installé à Tulle. Enfin, c'est un des poids lourds de la culture en Corrèze. Le Festival de la Vézère propose l'été prochain une 42e édition estivale toujours dédiée à la musique classique. Un rendez-vous exceptionnel dans le département puisque la fine fleur des musiciens classiques viennent en Corrèze faire découvrir leur jeu aux amateurs de musique. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu, c'est parti. Vous l'avez très certainement constaté en circulant sur les routes départementales ces derniers mois, de nombreux talus se sont écroulés, nécessitant parfois la mise en place de circulations alternées et souvent de déviations dans certains cas. Un constat repéré aussi par Jean-Marie Taguet, vice-président du département, c'est lui qui a la charge de la gestion des routes.
Il y a des éboulements, que ce soit des éboulements de talus, des affaissements de chaussées ou même on a des ruptures de murs de sous-traitement. Grosso modo, depuis le début de l'année, ça fait environ 150 phénomènes et désordres qui ont eu lieu.
Pour l'élu, ces éboulements ne sont pas dus à la coupe des arbres qui aurait pu accentuer le phénomène de ruissellement et donc d'érosion des sols.
Le long des routes, il y a un entretien régulier, mais il n'y a pas de coupe d'arbres. C'est vraiment un phénomène climatique qui fait que la terre se rétracte et les arbres sont fragiles, il y a des phénomènes venteux importants et que ça fait que ça arrache tout. Ce phénomène d'arbres coupés, non, enfin en bordure de route, non, c'est pas ce qui a été constaté par nos services.
Et en effet, la pluviométrie a été très importante en Corrèze. C'est ce qu'a pu constater Joël Gusquin, référent Météo France en Limousin notamment.
Sur la période de septembre 2023 à mars 2024, qui correspond d'un point de vue hydrologique à ce qu'on appelle la saison de recharge, pour donc la ressource en eau. Les pluies étaient un peu déficitaires en septembre, mais à partir du mois d'octobre, et en particulier à partir de la mi-octobre, on a des pluies abondantes qui ont commencé à tomber sur le département et qui ont quasiment été ininterrompus, à l'exception un peu du mois de janvier. Alors, quelques chiffres, en octobre, à l'échelle du département, donc ça ne veut pas dire qu'il est tombé les mêmes quantités partout sur chaque commune, il y a eu 215 mm de précipitation, alors qu'on en a habituellement en octobre 109 mm. En novembre, il y a eu 305 mm en Corrèze, contre 132 mm habituellement. En décembre, 186, alors que la normale est de 132. Donc on voit qu'on a eu en fait un automne et un début d'hiver qui ont été extrêmement pluvieux. Donc sur la totalité en fait de septembre à mars, cette saison 2023-2024 est au troisième rang depuis 1959 des saisons de recharge les plus pluvieuses, avec 1173 mm. Alors qu'habituellement, sur cette même période, on en a 774.
Des pluies abondantes donc qui sont tombées sur des sols relativement secs, voire très secs au vu de l'intensité des chaleurs estivales, poursuit l'analyste météo.
On a connu un assèchement des sols qui a été, en tout cas en surface, assez significatif au mois de septembre et jusque début octobre. Mais ensuite, les sols se sont effectivement fortement réhydratés avec les précipitations abondantes dont on vient de parler, là, en octobre-novembre, au point qu'on a atteint probablement des sols qui étaient saturés d'eau début novembre ou à la mi-novembre.
Et cela s'est produit dans un contexte de température chaude, insiste Joël Gusquin.
On a eu un mois de septembre qui a été exceptionnellement chaud. On a, au niveau du département, une température moyenne de plus 4 degrés par rapport à ce qui est habituellement observé pour un mois de septembre, ce qui a été un record depuis 1959, donc le mois de septembre le plus chaud. La première quinzaine d'octobre avait été aussi très chaude. cette douceur plus ces pluies ont permis à la végétation en fait de rester verte pendant très longtemps et aux arbres de garder leurs feuilles jusque pendant l'hiver en fait.
Des feuilles qui ont permis d'offrir au vent plus de moyens pour s'engouffrer et donc de déstabiliser les arbres qui, en tombant, ont favorisé aussi glissement de terrain et éboulement le long des routes. Une situation qui a un véritable coût financier pour la collectivité départementale, reconnaît Jean-Marie Taguet.
Depuis le début de l'année, ça chiffrait environ 700 000 euros hors taxes sur l'entretien de tout ce qui est talus et murs de sous-vêtements et autres, c'est un budget d'environ 1,5 million.
Autant dire que la préoccupation est totale pour le département.
Depuis deux ans, on a passé des marchés avec des entreprises qui nous permettent, on fait un suivi géotechnique donc de tous les endroits qu'on connaît à risque. Et cette prévention, elle est plus que jamais nécessaire. Mais enfin, on ne peut pas surveiller les 4700 km de route qu'on a au niveau du département. On a des points qui sont des points durs qu'on surveille un peu plus. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui porte à réflexion, oui. À un moment, on avait la période d'hiver avec les neiges qui est importante pour le service des routes. Maintenant, on arrive avec ces phénomènes qui sont là, qui peuvent être toute l'année, ces phénomènes climatiques qui commencent à être un peu inquiétants, oui.
D'autant plus inquiétant que selon les modèles mathématiques de Météo France, sur la longue durée, le réchauffement de la température au sol risque d'accentuer encore les périodes exceptionnelles, tant de chaleur que de pluviométrie intense. Guet-apens ou encore attaque en ligne symbolise la montée de la transphobie. La hausse de 13% des infractions anti-LGBT+ enregistrées par la police et la gendarmerie en 2023 confirme aux yeux des associations un climat extrêmement préoccupant en France. À Tulle, ce vendredi, journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies, la mairie de la cité-préfecture en Corrèze a décidé de déployer un immense drapeau arc-en-ciel sur son fronton. De quoi rassurer quelque part Alex Léonet, c'est la présidente de l'association Arc en Corrèze.
Ce drapeau, c'est un drapeau LGBT inclusif. Donc ce soutien, ça représente pour nous, en tant que personnes LGBT, le fait de bien se... On est bien vu, on est tolérant. Donc c'est une ville qui est tolérante, une ville qui, en tout cas, se bat contre l'homophobie et la transphobie, même si c'est illégal en France. Il faut savoir que la transphobie, l'homophobie, etc. est punie d'un an d'emprisonnement et d'amende. Pour nous, ça représente beaucoup, puisque ça représente tout le combat qu'il y a eu derrière avec nos anciens. Il y a eu le combat donc du mariage pour tous, la PMA pour toutes et tous. L'adoption aussi. Donc pour nous, c'est un grand soutien, que ce soit en tant qu'association, mais aussi en tant que personne LGBT, puisqu'on sait que, en tout cas, la mairie fait tout son possible pour pouvoir justement accueillir au mieux ces personnes-là.
Accueillir au mieux des personnes qui ne semblent pas être nées dans le bon corps, c'est là tout l'enjeu du combat que porte l'association Arc en Corrèze, un combat afin que les regards portés sur les personnes LGBT ne soient plus imbibés ni d'ignorance ni de haine.
Vivre ensemble, éviter le communautarisme. On est des êtres humains comme les autres. Voilà, on est en train d'essayer d'organiser plein d'événements justement dans ce sens-là, en disant que les personnes hétéros sont aussi les bienvenues. À partir du moment où vous êtes tolérant et respectueux, vous êtes les bienvenus.
Et ce que l'association Arc en Corrèze et sa présidente souhaitent défendre, c'est le dialogue. Alors la journée internationale de lutte contre les LGBT-phobies est importante afin justement de faire naître des discussions au-delà des simples clichés.
Souvent on entend dire c'est un effet de mode, c'est bon contre nature, mais ça on n'en reviendra pas. Mais ce côté effet de mode, je peux le comprendre dans le sens où les gens se montrent. Mais les gens se montrent parce qu'actuellement il y a des choses qui font qu'il y a quelques années de ça, c'était même pas la peine de se montrer. Nous, ce qu'on demande, c'est effectivement de vivre comme les autres. Ce qu'on demande, c'est d'être des humains. À l'heure actuelle, on en parle parce qu'il y a des choses qui se libèrent. La transidentité, en 2019, on était encore sous la maladie mentale. Alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un mal-être qu'on a en soi.
À l'heure où les paroles se libèrent, que l'on soit pour ou contre un phénomène, les mots utilisés sont reçus, selon Alex Léonet, tels des coups de lame portés au plus profond des personnes visées.
C'est aussi tout ce côté-là qui est compliqué pour nous en tant que personnes LGBT. Les gens sont libres de penser, les gens sont libres de parler, mais les gens qui sont contre, il faut aussi que derrière, pourquoi vous êtes contre et qu'est-ce qui fait vous dire ça ? Parce qu'il y a des choses, des fois, quand on entend dire justement on est contre nature, bah, c'est compliqué à nous entendre parce que on n'a pas choisi. Franchement, je vous assure que si on avait choisi de vivre comme ça, On n'aurait pas choisi le harcèlement qu'il y a derrière. On n'aurait pas choisi le parcours de santé qu'il y a derrière. Voilà, parce que c'est des parcours qui sont longs, qui sont compliqués et qui sont des fois semés d'embûches.
En France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 1690 contraventions ont été dressées en 2023. Majoritairement, ce sont des contraventions pour des insultes pures et simples. Un chiffre qui augmente de 4% en un an et qui, dans le même temps, peut entraîner de jeunes personnes au plus profond de l'abîme, quitte à préférer se suicider pour ne plus souffrir. C'est une institution culturelle en Corrèze. Le Festival de la Vézère, entièrement dédié à la musique classique, se déroulera cette année du 8 juillet au 12 août prochain. 27 concerts seront donnés dans des lieux du patrimoine. Et c'est ça l'idée originelle du festival, mêler musique et patrimoine, retrace Diane Dussaillant, la présidente du festival.
La ligne, c'était la Vézère et c'était un chemin de randonnée que mon père voulait créer pour relier les villages entre eux. Et il s'était dit, on va en profiter pour mettre des concerts de musique. Il a été voir les maires des villages environnants. Il leur a dit, alors faisons un festival ensemble et je vous apporte des concerts de musique classique chez vous. Et c'est ça qu'il a fait.
Cet été, ces 27 concerts se dérouleront dans 16 lieux emblématiques de la Corrèze. D'ailleurs, de nouveaux sites seront irrigués par la Vézère pour la première fois en plus de 40 ans d'existence.
Chaque année, on essaye de vous faire découvrir plus du patrimoine de la Corrèze. Donc cette année, on va aller pour la première fois à Collonges-la-Rouge et on va aller dans la petite église de Malemort. Et sinon, on essaye de varier. On est souvent, on est au château du Saillant, on est à l'abbatiale d'Aubazine, on est à l'église d'Aubja, on est à Saint-Ibard depuis quasi toujours.
Et pour mettre en valeur ce patrimoine historique, le festival invite les plus grands musiciens de leur génération avec cette année par exemple.
Marina Viotti qui a gagné les Victoires de la Musique est une chanteuse formidable, très amusante en plus qui commence notre festival le 8 juillet. On a l'orchestre de l'Opéra du Château de Versailles pour la première fois au festival, mais on a aussi Laurent Corsia qu'on retrouve après quelques années où il n'est pas venu au festival. Carole Beffa, qui est un des grands compositeurs français et improvisateurs, notamment.
Si la qualité des propositions musicales est la ligne directrice de la programmation, celle-ci laisse aussi beaucoup de place à la jeune génération et ce, depuis la création du festival il y a 43 ans.
On a fait commencer Hélène Grimaud, on a fait commencer Nemanja Radulovic et là on a fait commencer Alexandre Kantorov. Et donc maintenant, cette année, on a notamment Gaïané, on a un jeune Julien Beautemps qui vient, un jeune accordéoniste absolument formidable. On tient absolument à aussi faire participer la prochaine génération.
Gaïané, c'est Gaïané Garagiosian, une jeune pianiste briviste de 13 ans pour qui ce sera la première apparition en tant que soliste sur la scène du Festival de la Vézère.
J'avais déjà accompagné Camille Thomas avec orchestre à l'école. C'est très impressionnant de jouer dans ce festival parce qu'il est connu. Il y a beaucoup de grands pianistes qui ont joué dans ce festival. Du coup, je suis très impressionnée. Il faut que je me prépare très bien.
Cette collégienne de 13 ans aspire à intégrer le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Mais en attendant, cet été, elle partagera une journée musicale 100% féminine. Ce sera le 29 juillet.
Les concerts au féminin, trois femmes au piano, grâce à Gaïané, qui est donc au Conservatoire de Brive et qui a 13 ans, qui va donner le coup d'envoi à 2h30. Et on continuera avec Noura Yadi, qui fait une très jolie carrière de jeune qui était révélation Victoire de la Musique. Et puis on finira avec la soirée avec Jodiline Galavardin qui a été très primée pour son dernier disque et qui fait une très jolie carrière déjà.
Mais organiser un festival de musique classique alors qu'un événement sportif planétaire va se dérouler au même moment à Paris n'a pas été une chose aisée. Les organisatrices du festival ont donc dû jouer de finesse afin d'inviter les Jeux Olympiques de Paris au cœur même de leur festival.
On est en même temps, donc il fallait faire un petit peu attention. On espère garder notre public qui va aller au concert et pas forcément passer trois semaines au JO. Mais ça, je pense que ça va arriver. Mais donc, on a un concert de fermeture qu'on voulait faire le jour de la conclusion des JO. Donc ça, c'était pas heureux. Donc on le fait le lendemain. Et c'est Carole Beffa qui nous propose trois temps avec un temps convivial d'un conte qui s'appelle Le roi qui n'aimait pas la musique. Et donc, on va aimer la musique parce qu'au Festival de la Vézère, on aime la musique. Et donc, en deuxième temps, on va faire un film de Buster Keaton qui s'appelle sportif et qui est autour de plein de sports, mais c'est Buster Keaton, donc ça va être plutôt rigolo que champion de sport à mon avis. Et puis on finit le soir par une battle autour du côté qu'ont les musiciens et qu'ont les sportifs de la performance.
Tout le programme complet de cette 42e édition du Festival de la Vézère et ses performances sont à retrouver sur le site du festival, festival-vézère.com. A noter cette année que le week-end opéra se déroulera au Saillant les 8 et 9 août, au domaine de Sédière le 10 août, où seront donnés le Barbier de Séville par Rossini, mais aussi la Traviata de Verdi. C'est la fin de ce 50e numéro du Quart d'heure corrézien. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré toujours à l'actualité corrézienne. En attendant, je vous souhaite de passer d'excellents moments en Corrèze ou ailleurs.
Vous venez d'entendre le Quart d'heure corrézien. L'émission est à retrouver sur nos sites bramfm.com, rcf.fr et radiograndbrief.fr.